Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Alors c'est d'un grand écrivain, voyageur et photographe dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est Nicolas Bouvier qui est à l'honneur dans Asialogie. Alors oui. Je vais tenter de résumer sa vie et ça ne va pas être facile.
D'accord.
Voilà, je vais essayer en tout cas de vous transmettre un petit peu de sa pensée sur l'usage du monde et de m'attarder sur son expérience japonaise.
D'accord.
Et en deuxième partie d'émission, Didier, ce sera moins sérieux d'après ce que j'ai compris. Tu vas nous raconter l'histoire d'une peluche devenue une icône de la pop culture.
Clairement, oui.
La Boubou.
Oui, c'est un phénomène. Alors, avant ce phénomène, on va repartir vers Nicolas Bouvier. Alors, je crois que tout le monde ne le connaît pas. Honnêtement, je pense que là, on a besoin de tes lumières.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très connu en général, mais il est très connu par les amoureux du voyage et de la littérature de voyage.
D'accord.
Car Nicolas Bouvier, en plus d'être un grand voyageur, il est quand même considéré aujourd'hui comme un grand écrivain du XXe siècle. Mmh. Alors son œuvre, parce qu'on peut parler d'une œuvre, mêle récits de voyage, réflexions poétiques et observations ethnographiques.
D'accord.
Et il a profondément marqué la littérature francophone. Alors, il a inspiré plusieurs générations de lecteurs et de voyageurs et inspire toujours. Et son livre, L'usage du monde, est devenu un classique incontournable, souvent cité comme la Bible des routards, Didier. Alors, en dehors de ce livre, sa vie même est un chef-d'œuvre. C'est un philosophe du voyage. Je dirais, pour lui, le voyage, c'était comme une école de patience, d'humilité, de découverte de l'autre. Ça nous rappelle quelqu'un on a parlé un petit peu.
D'accord.
On va y revenir.
Oui.
Alors, Nicolas Bouvier est né à Genève le 6 mars 1929 et il est mort à 69 ans le 17 février 1998, donc très contemporain.
Oui.
Il est né dans une famille cultivée et ouverte sur le monde. Ça aide toujours.
Forcément, oui.
Et c'est son père, qui était bibliothécaire à la Société des Nations, qui lui a transmis très tôt l'amour des livres, des langues et des cultures différentes.
Ouais,
alors, il a suivi des études de lettres et de droit à l'université de Genève. Mmh. Et c'est le voyage qui va l'attirer. Il voulait expérimenter le monde.
D'accord.
Il avait rêvé très tôt d'Asie et d'horizons lointains.
Ah oui. Alors, et quand et comment il a mis ça à exécution? Quand il est parti? Où? Enfin, voilà, décris-nous ses voyages.
Alors, il a quitté sa Suisse natale en 1953 à 24 ans pour un périple qui allait changer complètement sa vie et marquer aussi ensuite la littérature. Mmh. Il est parti de Genève à bord d'une petite Fiat Topolino avec son ami peintre Thierry Vernet, direction l'Orient. Voilà, avec
quand
la petite Fiat. Alors, ce premier voyage va durer 2 ans et va les mener à travers la Yougoslavie. À l'époque, c'était la Yougoslavie. Hein. La Turquie, l'Iran, tous ces pays-là se visitaient, ne l'oublions pas. Mm-hmm. L'Afghanistan, le Pakistan, et ils sont arrivés jusqu'en Inde, quand même.
Très bien. Ouais.
Ils vont vivre tous les deux en gagnant un peu d'argent, en vendant les peintures de Thierry. Thierry Vernet était un peintre. Et en donnant des conférences ou des cours pour financer leur voyage. Et c'est de cette aventure que naîtra donc le fameux livre L'usage du monde. C'est pendant ce voyage-là qu'il l'a écrit.
D'accord.
Et il a mis 10 ans à l'écrire et avant de le publier quand
même.
Ah oui. 2 ans de voyage, 10 ans.
D'accord, 10 ans pour écrire
pour le publier.
Aussi. Voilà. D'accord. Alors, justement, parle-nous de ce livre. Que nous raconte L'usage du monde? Puis, en quoi ce livre est un chef-d'œuvre?
Oui, alors L'usage du monde a vraiment révolutionné la littérature de voyage, car il mélange les genres. On y trouve à la fois des descriptions précises et poétiques des paysages et des gens, des réflexions philosophiques, de l'humour, le tout illustré par son ami Thierry Vernet.
Eh oui.
Alors, c'est là que revient notre ami Victor Segalen. Comme lui, il ne voulait pas explorer ni conquérir, mais il voulait se laisser transformer par le voyage. Il a écrit en route, on s'efface, on perd ses certitudes, et c'est ce dépouillement qui permet de mieux voir le monde.
Comme je suis d'accord avec ça.
Voilà, il a écrit aussi « Le monde n'est pas à posséder, mais à user comme une route, une saison, une chanson ». C'est de cette idée que lui est venue l'idée du titre, bien sûr, de son livre. Alors, une autre phrase marquante, hein, « La route ne mêle nulle part, si ce n'est à vous-même. Elle use vos résistances et vous apprend la patience ». Alors, pour moi, je dirais encore, c'est encore un nouveau livre de chevet.
Elle est grande, ta table de chevet.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, qu'a-t-il entrepris donc, après ce premier voyage de 2 ans, en fait ?
Ben, il va alterner ses voyages avec ses retours en Suisse.
D'accord.
Et il va bien sûr écrire et exercer plusieurs métiers. Journaliste, photographe, hein, c'était un excellent photographe.
Je conviens.
Conférencier, traducteur. Et il va exposer, il va organiser aussi des expositions de ses photos dans des musées. Et puis après la France, l'Écosse et l'Irlande, ses voyages suivants vont le mener plus loin vers l'Orient, au Japon, en Corée et au Sri Lanka.
D'accord.
Alors tous ces pays vont énormément l'inspirer et ses réflexions vont tranquillement construire son œuvre littéraire.
Oui. Alors, donc, a priori, il y a beaucoup d'écrits sur le Japon. Est-ce que tu peux nous parler de son expérience là-bas ? À quelle époque il y est allé ?
Alors, il va débarquer au Japon en 1955. Alors, on imagine.
Oui,
hein,
oui, oui. Faut se remettre dans le contexte.
Il est allé en bateau. Il est parti de la Chine, sûrement. Non, il n'est pas parti de la Chine. Il est parti en bateau. Il faudrait que je cherche d'où il est parti, d'ailleurs.
Oui, d'accord.
En tout cas, il est arrivé en 1955. Il avait alors 26 ans. Et en fait, il est arrivé presque par hasard au Japon parce que, justement, il voulait aller en Chine. Mais la situation politique avec Mao au pouvoir avait fermé le pays aux étrangers. Donc, il n'a pas pu aller en Chine. Il est donc allé au Japon.
Voilà, un hasard.
Il n'avait pas d'argent, pas de plan, juste son appareil photo et sa curiosité.
Très bien.
Alors, dès son arrivée, bah, il va être fasciné par la vie quotidienne des Japonais dans l'après-guerre, avec l'urbanisation galopante de Tokyo. Il était fasciné aussi par la tradition encore très forte, par le raffinement et la codification des règles sociales. Il va y rester près de 2 ans.
Ah oui.
Il y reviendra plusieurs fois par la suite dans les années 60 et 70.
D'accord.
Alors, pour son premier voyage, là, donc, il va s'installer d'abord à Tokyo, puis il va voyager dans d'autres régions pour approfondir sa connaissance du pays, non pas comme un touriste, mais en partageant le quotidien des habitants. Il va se plonger dans l'art japonais, bien sûr apprendre le japonais, apprendre la calligraphie, étudier la peinture, les estampes, la musique traditionnelle et la poésie.
Eh oui.
Bon, je vous propose qu'on écoute Milette, c'est une jeune chanteuse japonaise qui a une belle voix.
Très belle voix. Alors voilà, une jolie, jolie pause musicale.
Ah oui, c'est vrai,
très belle
j'ai
voix.
Adoré.
Moi j'aime beaucoup son petit grain de voix là.
Milette.
Voilà, à retenir.
Japonaise.
Peut-être qu'on la retrouvera dans des prochaines émissions. Donc, le Japon, pour revenir à notre sujet, a donc été très important pour lui, vu l'intérêt qu'il a porté à sa culture. Et comment a-t-il vécu là-bas ?
Alors, d'abord, pour résumer, je peux affirmer que le Japon a provoqué chez Nicolas Bouvier un choc esthétique majeur.
D'accord.
Dans ses livres et ses photographies, il nous a décrit un monde où le détail compte plus que tout, où l'éphémère, comme le passage des saisons, la floraison des cerisiers, la pluie, la brume, ça devient la vraie beauté.
Mmh.
C'est la vraie beauté au Japon et il a découvert ça.
D'accord.
Alors, il a aussi découvert la fameuse philosophie du wabi-sabi dont tu nous avais parlé, Didier.
Oui,
la philosophie qui valorise la simplicité, l'imperfection et la fragilité. Mm-hmm. Et ça va le marquer.
D'accord.
Et ça va entrer aussi en résonance avec sa propre approche du voyage, accueillir le monde tel qu'il est, sans chercher à le dominer ni à le modifier. Ça, c'est, je dirais, si tous les touristes étaient comme Nicolas Bouvier, le monde serait différent de ce qu'il est aujourd'hui, je pense.
Oui.
Mais comme partout ailleurs, Nicolas Bouvier a dû travailler pour subsister. Il a donc donné des cours de français, encore, des cours d'anglais. Mm-hmm. Il a écrit des articles pour des journaux et il a fait de nombreuses photographies qui ont montré un pays encore pauvre, mais en pleine transformation.
Mm-hmm.
Et puis, il va avoir une super opportunité, celle de résider dans un temple bouddhiste zen à Kyoto.
Ah oui. Eh ben, c'est une expérience incroyable, ça, pour un Européen. Dans quel temple a-t-il habité, Corinne ?
Alors, il a habité, ça c'est une certitude, et il y a des écrits qui disent qu'il a même été gardien de ce temple.
Ah, carrément.
Voilà. Alors, c'était en 1964, il y habitait plusieurs mois avec sa femme et ses deux fils, il était marié.
Oui.
Et ce temple, c'est le Daitokuji, un centre spirituel majeur de Tokyo. Et cette expérience de Kyoto, pardon, et cette expérience lui a permis de comprendre la philosophie zen au travers de la profondeur de ses rituels. Il a découvert tout ça. Alors, cette vie très codifiée contraste évidemment avec ses périples précédents, un peu plus mouvementés. Et cela lui a offert un temps suspendu, propice à la réflexion et à l'écriture, forcément.
Et oui.
Alors, ce séjour prolongé au temple d'Aitokuji a eu un impact majeur sur son écriture, évidemment.
On l'imagine.
Et il y a appris à voir le monde avec des yeux toujours neufs. Et comme je vous le disais, on appréciait la beauté dans les moindres détails et dans les détails les plus simples.
D'accord.
Alors, quelques mots sur le Daitokuji, qui est un ensemble de temples zen fondés au début du 15e siècle. Il est situé dans le quartier de Kita à Kyoto et il est réputé pour son atmosphère propice à la méditation. Alors aujourd'hui, le Daitokuji reste un lieu de pratique zen vivant qui attire de nombreux visiteurs du monde entier. On peut visiter le Daitokuji très facilement. Et ces jardins sont des exemples emblématiques de l'esthétique zen dont tu avais parlé, Didier.
Oui.
Ces fameux jardins qui mettent en valeur la simplicité, la symétrie et l'impermanence.
D'accord. Alors, comme c'est un écrivain, j'imagine qu'il a écrit un livre qui raconte spécifiquement ses expériences de vie au Japon. Alors, il a dû écrire d'ailleurs d'autres livres.
Oui, Didier, il a écrit d'autres livres et un des plus connus, c'est Chroniques japonaises. Donc, c'est un projet littéraire ambitieux qu'il va mettre là 20 ans à écrire.
Ah, tout de même.
C'est pas forcément énorme comme livre, mais il a mis 20 ans à l'écrire.
Okay.
Mais c'est un super livre.
Ah.
Alors, il est paru en 1975 et ce n'est pas un simple récit. C'est un ensemble de textes, d'anecdotes personnelles, de réflexions philosophiques aussi, de récits historiques, de portraits qui nous racontent la complexité et la beauté de la culture japonaise.
D'accord.
C'est Chronique japonaise, le titre. Puis il rentrera en Europe et retournera régulièrement au Japon à la suite de ce séjour prolongé. Il écrira d'autres livres liés à ses premiers voyages, comme Le Poisson Scorpion, qui célèbre comme livre aussi, édité en 1981, qui a été inspiré par un séjour difficile au Sri Lanka. Il avait été très malade au Sri Lanka. Et il a écrit aussi « Journal d'Aran et d'autres lieux » paru en 1990, où il raconte ses séjours en Irlande et en Écosse.
Mmh.
Et en 1999, sortira à titre posthume le « Dehors et le dedans ». C'est un recueil de textes, d'aphorismes et de poèmes.
D'accord.
Voilà, ce sont les livres qu'il a écrits. Donc Nicolas Bouvier est resté longtemps un écrivain confidentielle. Oui. Mais peu à peu, son œuvre est devenue culte et continue de toucher des lecteurs du monde entier. Elle est traduite dans de nombreux pays, oui, régulièrement rééditée en format poche.
Wow, ce qui nous donne un accès assez facile.
Ah bah oui, puis on les trouve, on n'a pas besoin de les commander, ils sont en rayon.
D'accord. Et alors, il a vécu comment ces dernières années, ce monsieur ?
Nicolas Bouvier a poursuivi ses voyages et ses conférences, oui, jusqu'à la fin de sa vie, malgré ses problèmes de santé. Ah. Et il est mort en 98 à, oui, Genève, à l'âge de 69 ans, d'un cancer.
D'accord.
Et ses dernières années, forcément, étaient un peu plus sédentaires.
J'imagine bien, oui.
Mais je terminerai avec une phrase de l'usage du monde. Mm-hmm. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.
Ah, joli. Voilà. Ouais, joli, joli, joli.
Hein, ça rappelle Victor Segalen,
ah, oui,
quand,
oui,
même.
Oui, hein. Oui, on est dans le même esprit.
Il était aussi inspiré par,
oui,
par Victor. Il le connaissait.
Ce serait pas étonnant.
Il le connaissait pas personnellement,
oui,
mais il connaissait l'œuvre de Victor Segalen.
Des choses qui se sont croisées.
Bon, là, on va changer complètement de registre.
Clairement.
Tu nous as préparé,
oui,
une chanson.
Oui.
C'est Golden du film K-pop Demon Hunter.
C'est ça.
Mais la version.
C'est une version
la
boubouisée.
La boubouisée.
Je ne sais pas comment dire, mais bon, à découvrir.
En tout cas, c'est Golden.
C'est sympathique.
Oui, c'est dynamique.
Voilà. I'm the boo-boo, I'm the boo-boo, I'm a monster. When I became a toy, I didn't know what to do. I lived two lives, tried to be loved, but I couldn't find my place. Oh, they called me a difficult toy, 'cause I was too wild. But now I'm the boo-boo, I'm not hiding, I'm shining. I'm the boo, I'm the boo.
Bon, c'était Golden, la boubouisée, Didier.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, la boubouille doit être sacrément célèbre pour qu'on la boubouise une chanson comme Golden.
Clairement.
Qui est écoutée des millions et des millions de fois.
C'est ça. Bah, je vous mets un petit peu dans le contexte.
C'est mignon quand même.
Oui, c'est, voilà, mignon, c'est ce qu'on peut dire, c'est mignon. Alors donc, la boubou, avec l'histoire de la création de la boubou, je vous emmène dans l'univers de ce qu'on appelle en fait les art toys. Alors la boubou,
oui,
étant
important
une
cet
des,
univers.
Oui, oui, une des success stories, alors vraiment un truc phénoménal, récente de ce secteur florissant. Les art toys sont en fait des figurines créées comme des objets d'art. Ils sont souvent produits en série limitée, en vinyle, en résine, en peluche. Et le plus important, c'est qu'ils sont conçus par des artistes, graphistes, illustrateurs ou des célèbres designers, quoi, en fait.
Oui. Oui, c'est des vrais créateurs.
C'est ça. Les art toys sont nés en fait dans les années 1990 à Hong Kong, puis au Japon. Ils combinent le street art, la pop culture et le design contemporain. Les art toys font partie d'un univers narratif particulier. Hein. Ils ont des caractéristiques, une esthétique unique, sont en édition limitée, comme
oui,
on l'a dit. Voilà. Mmh. Ils sont souvent numérotés, enfin, tout ce qui crée un peu la rareté. Et ils sont des objets de collection et donc de spéculation, forcément.
Oui, forcément.
Ce qui va avec. Eh oui. Alors, donc, la spéculation, ça nous emmène au Laboubou, en fait, qui, eux, ont fêté leurs 10 ans. Bon, ils n'ont pas tout de suite explosé.
Oui, ils sont pas si jeunes que ça, les Laboubou.
Non,
hein.
Le phénomène est plus récent, vraiment. Enfin, le pic, on va dire. Cette
le
année,
pic
en,
est récent.
Voilà, cette année, donc en fait partie. Alors, il est devenu un symbole des Artoys en Asie. Il est distribué exclusivement par Pop Mart, une entreprise chinoise. Alors, une sacrée entreprise qui, elle
oui,
aussi...
Oui, ça mérite d'être souligné,
ouais,
Didier.
A bondi énormément. Là, quand on préparait l'émission, on se faisait la réflexion. Là, c'est pas de la copie de quelque chose. Il y a une vraie création et ils sont allés au-delà de la copie. Et maintenant, ce sont des créateurs qui taillent des croupières aux grands groupes de jouets internationaux.
Je pense que maintenant, oui, on préfère acheter
étape,
chinois ou on préfère acheter japonais que ce qui est fabriqué aux États-Unis.
En tout cas, je sais pas si on préfère, mais en tout cas, c'est un fait.
On préfère.
C'est un fait, d'accord.
Un peu.
C'est un fait. Ils inondent le marché, pas de copie, mais de création.
Oui.
Ça change beaucoup de choses.
Alors décris-nous Laboubou, Didier, parce que tout le monde ne le connaît pas.
Non,
j'en ai vu beaucoup au Mans.
Ah, oui. Oui.
Il y en a pas
d'autant
tant
plus.
Que ça.
Non.
Et d'abord, il n'y a pas de magasin Pop Mart déjà.
Voilà déjà. Hein.
Et qu'est-ce qui le rend si attirant et pourquoi tant de succès?
Alors tout simplement par son design, hein, c'est mignon, c'est et puis expressif à la fois, adorable et un petit peu effrayant aussi.
Oui,
ce qui le
mignon.
Rend attractif.
Moi, je le trouve très mignon.
Oui, oui, pour toutes les générations, forcément, il plaît quoi, vu le phénomène, ça c'est sûr. Il est vendu donc dans des blind box, des boîtes avec des boîtes surprises. En fait, vous avez plusieurs dans une boîte, vous savez pas ce que vous allez avoir. C'est un peu comme les cartes Pokémon. Quand vous ouvrez le sachet, vous savez pas quelle carte vous avez dedans. Mais là, c'est pareil pour les Laboubou. Et puis on découvre celui de la série qu'on a choisi et la couleur qu'il est.
Oui, on n'a pas le choix
Oui, voilà, c'est des boîtes surprises.
On choisit la collection,
voilà,
mais on sait pas,
on sait pas exactement lequel on va avoir. Avec un effet de loterie, en fait, ça entraîne la création d'une collection. Qui fait augmenter les ventes.
Bah oui, parce que si on se retrouve avec trois fois le même...
C'est ça, et d'autant plus que dans cette série, il y en a six dont on connaît le design, parce que le visuel est sur la boîte, et il y en a un secret. Alors celui-là, on ne sait même pas à quoi il ressemble, et alors c'est forcément ça qui fait sa rareté, et qui aussi crée l'envie et le besoin.
Bah oui, on a forcément envie d'avoir le secret.
Voilà, donc tout ça, ça fait augmenter ses ventes, et c'est ce qui fait aussi favoriser sa popularité. C'est l'engouement des célébrités mondiales hein, pour cette peluche qui a fait décoller le truc. Des personnalités comme Lisa de Blackpink, les BTS, Brad Pitt, Rihanna, Dua Lipa et bien
du
d'autres
bon
qui ont accroché ça à leur sac. Donc forcément, ça fait le buzz et puis tout le monde se les arrache. Il en existe plus de 300 modèles.
Oui, il y en a qui se les font voler.
Hein. Oui, alors, bah, j'imagine, oui, oui sûrement. 300 modèles différents avec des éditions donc, thématiques, comme on l'a dit, spéciales. Des modèles géants aussi, des sculptures aussi pour les fans. Quoi.
Oui, il y a plein de modèles en
voilà,
fait.
Voilà, ça a été décliné. Quoi. Les Laboubou ont un visage en vinyle. Avec
le Laboubou classique.
Voilà, oui, bien sûr. En vinyle avec une tête et un corps en peluche. Ils ont des oreilles de lapin. 9 dents pointues, attention. Hein, c'est 9...
Oui, s'il n'y a pas 9 dents,
non, c'est pas,
pas
un vrai.
Un vrai.
On va vous en reparler après. Il mesure donc 15 cm. Il existe des Laboubou aussi dérivés, plus petits. Enfin voilà, ils ont fait le truc quoi, hein, pour avoir aussi d'autres petites choses à vendre. Le plus grand des Laboubou, lui, fait 1m31. Alors celui-là, c'est un modèle unique, hein. Ils peuvent être de toutes les couleurs, et les noirs sont souvent les plus rares, ils ressemblent un peu à des trolls avec un petit côté Gremlins mélangé à un Ewok. Enfin, je vous invite à aller voir sur internet, ce ne sera pas compliqué.
Oui, il a un petit côté Kiki aussi.
Oui, oui, il y a tout ça, c'est un mélange de tout ça. En fait.
C'est un mélange.
C'est
alors,
ça.
C'est pas qu'un simple jouet, donc Laboubou, c'est un Artoy. Alors,
oui.
Qui c'est qui l'a créé, Didier?
Alors, Laboubou a été créé par... Cassing Lung, un créateur et designer hongkongais, mais né en 1972. Alors, il a grandi aux Pays-Bas, hein, il vit actuellement en Belgique. Donc j'imagine que le fait d'avoir grandi aux Pays-Bas aussi, ça a étoffé son truc. Son travail, il est fortement influencé par le folklore et les mythes nordiques en fait.
Ah oui.
En 2015, il a créé une série de livres illustrés pour les enfants appelés The Monster. Laboubou est le plus célèbre des monsters, hein, un univers de contes, de fées. Il a publié 3 livres dans cette collection et on s'en doute, bah, ils sont aujourd'hui épuisés. Hein.
Oui,
et alors,
sûrement.
Dans The Monster, Laboubou est un peu effrayant, mais il est aussi bienveillant et chacun des personnages y éprouve des sentiments un petit peu complexes.
Alors, comment Kadzing Lung est-il passé de l'univers des livres pour enfants à cette reconnaissance mondiale, Didier? Voilà. Parce que c'est... Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y en
Bien
a
sûr.
Plein des illustrateurs pour
c'est
enfants
ça.
Qui
ça
créent
des personnages. Ça bascule pas forcément comme ça.
Exactement.
Après, après la sortie de sa trilogie, il a étendu cet univers dans des peintures et des expositions. Puis il a été sollicité par l'entreprise Pop Mart, justement, dont on parlait tout à l'heure, en 2019, pour commercialiser les personnages dont la boubou. Et le public s'est mobilisé depuis. Il vit ce succès vraiment fortement.
Il est devenu millionnaire. Succès,
voilà, il est devenu millionnaire, forcément. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on fête cette année les 10 ans de la création de la boubou. Et pour cela, Kadzing Lung, il a signé une collaboration avec un grand maltier français, la maison Moina. Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas bien. Je ne dois pas avoir les fonds pour ça. Fondée en 1849, maison réputée pour son artisanat de très haute gamme, son savoir-faire traditionnel. Et bon, ça fait partie du groupe LVMH.
Ça veut tout dire.
Un petit peu, hein, quand même.
Ça veut tout dire.
Voilà. Le lancement donc, a eu lieu le 11 octobre 2025 à Shanghai. Ensuite, la collection de sacs et d'accessoires sera disponible dans quelques boutiques Moina dans différentes villes à travers le monde. Donc, bien sûr, Paris, Taipei, Hong Kong et quelques villes aux États-Unis de fin 2025 à 2026. Vous trouverez tout ça. Enfin, si vous en avez les moyens, parce que ce sera très rare et très cher, on l'imagine.
Oui, 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 moi je ne connaissais pas Moina non plus,
moi
Didier.
Non plus. Hein.
Mais ça doit être effectivement du grand luxe. Alors moi, cette histoire me fait penser à Takeshi Murakami,
oui.
qui est un designer japonais avec ses marguerites un peu diaboliques.
Oui.
Alors, on les avait retrouvées sur les produits
voilà
Vuitton,
aussi.
Les marguerites. Alors, dis-nous combien ça coûte les laboubou, Didier.
Alors...
Si on ne peut pas se payer les sacs Moina, on peut peut-être se payer un laboubou.
Ouais, c'est possible.
Faut si, on trouve...
si on en trouve.
Oui.
Le marché des laboubou est très fluctuant. Il serait déjà un petit peu en perte de vitesse. Hein, c'est comme tous ces modes. Le prix d'un laboubou classique, c'est environ 25 euros.
Oui, ça va, c'est
voilà.
abordable.
Ouais, c'est mieux. Mais certaines séries limitées peuvent atteindre plusieurs centaines ou milliers d'euros hein, sur le marché de la revente. Hein. Il y a même un record avec un laboubou de 1m20 qui a été vendu à 177 000 $ à Pékin.
D'accord. Est-ce qu'il y a des contrefaçons?
Alors oui, il y a des contrefaçons forcément. Il y a les magasins donc Pop Art qui les vendent à Paris et dans sa région. Puis il y a des boutiques en ligne. Et puis il y a les Lafoufou que eux on trouve. Ailleurs, c'est vraiment.
On n'a pas le droit de le dire.
Voilà, voilà, c'est ça.
Ok, Didier, Asialogie, c'est fini
voilà.
déjà. On va te quitter et quitter la boubou aussi.
C'est ça.
On se retrouve jeudi prochain à 12h, samedi à 9h30,
voilà.
mercredi à 13h. C'est toujours sur Radio Alpa.
Et en podcast, si vous pouvez
et
pas à ces
podcast,
horaires-là.
Et en podcast, bien sûr. À très bientôt à tous.
Allez.
Bonne semaine.
À vous
Salut.
Aussi. À bientôt.